question de sens, de fondement et de valeur. Ces questions-là sont suscitées par la science, et je reviens à la question qui m'avait été posée là sur l'articulation tout à l'heure. Hein, c'est ces questions de sens, de fondement et de valeur sont suscitées à longueur de journée par la science. D'accord ? On ne peut pas faire de la biologie, par exemple, j'ai pas mal de contacts avec des biologistes du développement. Les biologistes du développement, ils étudient les gènes qui sont responsables de la structuration du plan d'un animal. Donc vous avez des gènes qui sont des gènes architectes, qui sont organisés linéairement dans le génome, et chaque gène s'allume et indique où et quand il faut faire tel organe. Donc, quand va-t-on déployer sur la drosophile cette petite mouche? Quand vous laissez des fruits un peu pourrir dans un plat, vous avez toutes sortes de petites mouchettes qui volettent au-dessus des fruits. Vous avez vu ça? Alors ça, ces petites mouches sont les animaux les plus extraordinaires pour le biologiste. Ce sont les drosophiles, la mouche du vinaigre. Et ces drosophiles, on la connaît parfaitement, on connaît son génome. C'est l'animal modèle pour la biologie, pour la génétique. Et les biologistes du développement ont remarqué que certains gènes codent pour le plan de l'animal. Il faudrait pas aller faire des ailes sur la tête, il faudrait pas mettre la tête avant le corps, etc. Alors il y a des gènes qui font ça, des gènes architectes. Mais maintenant, vous travaillez sur des mammifères et vous étudiez les gènes architectes chez le mammifère, et un des biologistes va vous dire, mais j'aimerais bien savoir quel est le rôle de tel gène. Chez la drosophile, on sait que telle mutation sur le gène Antennapedia fait apparaître des pattes sur la tête, à la place des antennes. C'est pour ça qu'on l'appelle Antennapedia. Donc on fait une mutation et on s'aperçoit qu'il y a des pattes qui apparaissent sur la tête. Aujourd'hui, les biologistes peuvent faire apparaître des yeux sur les ailes, des ailes sur les pattes, etc. Rien que des mutations comme ça. On fait des expériences sur les mammifères, immédiatement arrive la question, oui mais peut-on faire ça? Est-ce qu'il convient de faire une mutation sur un gène architecte, sur un embryon humain, par exemple? Est-ce qu'on pourrait faire ça? Mais la science amène des questions. Je fais des expériences et je me demande comment je peux continuer mes recherches et pourquoi je ne pourrais pas faire ça. Un jour, je discute avec un biologiste de Paris et qui me dit, moi, j'aimerais bien savoir ce qui se passerait si on faisait un couplage avec un patrimoine génétique humain et lapin. Mais en France, on ne peut pas faire ce genre de choses, mais j'aimerais bien voir ce qui se passe. Alors je dis, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Enfin, allez, oui, parce que on veut vraiment savoir ce qui va se passer. Une structure embryoïde, homme-lapin, serait vraiment quelque chose de extrêmement. Il est parti en Chine, parce qu'en Chine, il y a un vide juridique total pour ce genre de choses, jusqu'à présent, et ils ont fait des structures embryoïdes homme-lapin. Donc ils ont retiré le matériel génétique d'un ovule de lapine, ils ont injecté une partie de patrimoine génétique humain, ils ont stimulé pour faire une sorte de quasi-fécondation, l'embryon se met, on pourrait dire, la structure se met en route, et le patrimoine génétique humain commence à commander le cytoplasme lapin. Alors ça fonctionne jusqu'à un certain point, puisque il y a des gènes communs, etc. Puis bon, ça s'arrête. Et il est tout content d'avoir fait une structure embryoïde homme-lapin. Bon, alors la question est de savoir, est-ce qu'une expérience de ce genre-là s'impose? Peut-on faire ça? Au nom de quoi? Etc. Ça, c'est la question des valeurs. Pour prendre un exemple moins connoté, dans les années 50, Georges Lemaître, dont je parlerai ce soir, comme président de l'Académie pontificale des sciences, est confronté à une demande. Des physiciens américains avaient envisagé de faire une belle expérience qui consistait à faire exploser une bombe thermonucléaire à haute altitude en propageant des paillettes métalliques dans toute la haute atmosphère, simplement pour voir si on ne pouvait pas faire une espèce de bouclier métallique quasi permanent, qui permettrait de réfléchir beaucoup mieux les ondes radio, donc pour améliorer les communications intercontinentales. Bon, alors, est-ce qu'il est légitime ou non d'aller faire exploser une bombe de haute puissance pour répartir des paillettes métalliques, etc. Eh bien, ça c'est une question, question de valeur. Peut-on ou non? Quelle est la valeur de ce genre de comportement? Bon, et puis certains ont dit, par exemple, Attention, parce que si, effectivement, on pourrait faire cette expérience-là, si vous faites ça, c'est la fin de la radioastronomie, par exemple. Parce que si les ondes se réfléchissent, les ondes de la Terre se réfléchissent bien, et ça c'est excellent pour les télécommunications, les ondes qui viennent du cosmos, elles se réfléchissent aussi sur ce bouclier. Et donc plus aucune onde qui vient du cosmos, onde électromagnétique, ne vous parvient. Or c'est une des sources de l'astronomie. Donc d'une certaine manière, ce comportement qui apparaît comme une curiosité éventuellement légitime pourrait se retourner contre la recherche de la vérité. De la même façon que si vous commencez à faire des mutations n'importe comment sur le génome humain, un jour ou l'autre, ça peut se retourner contre vous et vous ne pourrez plus découvrir le vrai parce que vous avez cassé un certain nombre de choses. Ça, c'est une question de valeur. Mais c'est en permanence que la science est confrontée à ça. Et pas seulement les sciences biologiques, physiques, etc. Mais même les sciences mathématiques. Hein. Aujourd'hui, par exemple, on déploie des énergies folles pour faire des logiciels qui calculent les risques financiers dans des opérations boursières, par exemple. Le mathématicien peut faire de l'ingénierie financière, faire de beaux modèles, etc. Mais oui ou non est-il éthiquement admissible de faire des modèles qui, par exemple, accroissent, qui par principe sont là pour accroître les profits d'une petite quantité de personnes en mettant dans l'instabilité financière des tas d'autres personnes. Donc faire du capital, des modèles mathématiques qui expliquent pourquoi et comment on fait du capital très rapidement en mettant dans l'instabilité financière toute une série de personnes. Et, alors l'ingénieur financier, c'est un mathématicien pur, il fait des processus stochastiques, etc. On pourrait dire, mais les mathématiques n'ont rien à voir avec l'éthique. Et, mais ça, c'est pas si sûr, parce qu'en fait, il y a des questions de valeur. Je mets au point un modèle, mais qu'est-ce que ça engage, qu'est-ce que ça implique dans la vie économique et pour les acteurs sociaux, etc. Question de valeur. La science, elle ne voit pas ça. Si vous regardez des théorèmes sur des processus stochastiques ou des calculs en finance, jamais vous ne verrez c'est pas bien de mettre dans une instabilité financière une famille pauvre du fin fond des États-Unis. Ça, les mathématiques ne voient pas ça. Et je peux dire, oui, mais moi ça me concerne pas. Moi, je fais des mathématiques financières, moi, je fais des calculs. C'est ce que disait Alos Alamos, un certain nombre de physiciens qui disaient, nous, on fait de la belle physique nucléaire, nous. Non, c'est les militaires qui lancent la bombe. Nous, on fait des expériences et on veut savoir ce qui va se passer. Oui.
On en reste à
nos mathématiques, et ce serait de voir les limites de l'approche strictement mathématique. Si on couple ça avec l'économie, par exemple.
Mais si on couple,
voilà, Oui. Ah non, tout à fait. Ça se relie à cette question philosophique des fondements, c'est-à-dire les fondements, c'est aussi fondement, c'est limite et aussi portée des théories. D'accord ? On va dans ces questions-là, le philosophe va poser des questions critiques sur les limites de la méthodologie scientifique et va se rendre compte que, par exemple, effectivement, pour comprendre un phénomène économique, il suffit pas simplement de l'expliquer en des termes simplement des flux financiers. Par exemple, on dira que la psychologie humaine est extrêmement importante. Hein. La preuve, c'est que les flux financiers sont en partie déterminés par ce qu'on dit à la radio et à la télévision. Et les gens prennent peur, retirent leurs avoirs, etc. Donc il y a des combinaisons avec de la psychologie aussi. Et celui qui dit j'explique les finances par des mathématiques, effectivement, se trompe. Ou comme si on pourrait ajouter aux sciences, les sciences politiques, etc. Donc effectivement, c'est une bonne remarque, et c'est lié à une analyse critique sur la limite des sciences. Donc en fait, la philosophie va poser des questions que suscitent les sciences, mais que les sciences sont incapables de résoudre, parce que par principe, elles ne prennent pas en compte ceci. Vous voyez ? La science décrit ce qui se passe si je bois 3 litres de whisky et que je roule à contresens à vélo sur l'autoroute Berne-Fribourg. Elle va décrire ce qui se passe, les dérégulations neurophysiologiques qui se passent quand j'ai ingurgité 3 litres de whisky. Elle va me dire aussi ce qui se passe dans la mécanique des chocs, mais il n'est jamais dit dans un livre de physique que ce n'est pas bien de faire ça. Parce que le bien et le mal, l'évaluation en termes moraux, justement, est mise entre parenthèses par la science. Non pas que la science n'aurait pas de portée éthique, mais la méthodologie scientifique n'aborde pas ces questions-là. Mais elle les suscite. Vous ne pouvez pas faire de la biologie du développement sur des mammifères supérieurs sans vous poser des questions éthiques importantes. Oui.
Est-ce que ça veut dire que quand on n'a pas fait de découvertes scientifiques, on ne peut pas se poser de questions philosophiques?
Si, parce que en fait, le champ de la philosophie, c'est pas seulement la science. Hein, donc, on pourrait dire, la science se base sur le monde empirique, mais la philosophie, l'objet de la philosophie, c'est toute chose. Donc, par exemple, y compris l'expérience humaine la plus simple. Donc, en fait, le philosophe peut déjà se poser des questions. Par exemple, il va regarder des choses, il va dire, tiens, des choses existent, mais pourquoi existe-t-il donc quelque chose et non pas plutôt rien? En fait, il ne faut pas la science pour ça. D'accord? Donc, c'est vrai, ça je dois le dire, le champ dans lequel travaille le philosophe, c'est toute chose. C'est tout le champ de l'expérience, à la fois humaine, scientifique, toutes les expériences. D'accord? En fait, il n'y a pas d'objet particulier à la philosophie, dans le fond. Tout peut faire l'objet de la philosophie, y compris la philosophie elle-même. Parce que le philosophe pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que je me pose tant de questions? D'accord? Vous avez intérêt à vous poser la question, parce que c'est ça qui, en général, tracasse aussi les étudiants. Pourquoi se poser tant de questions? Ça, c'est une question philosophique qui n'a pas besoin de la science, qui n'a besoin que de l'interrogation philosophique elle-même.